Chers auditeurs,
dear listeners,
bonjour.
Welcome to Comme d'Archi Podcast Season 5.
Saison 5, dans le monde fascinant des architectes.
And in the architectural projects.
Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi.
I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history.
Merci.
Thank you.
D'être avec moi aujourd'hui.
To be with us today.
Et
and
maintenant,
now,
lundi en français, place au talent.
And Wednesday, let's talk projects. In English, of course.
Bienvenue dans Comme d'Archi.
Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Laure Saunier. Bonjour Laure.
Bonjour.
Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte et à la tête de votre agence LS Architecture.
Oui, c'est ça.
Une agence qui est implantée à Paris.
Oui.
Et à Béziers.
Exactement.
Alors, on va commencer par une histoire de goût. Aimez-vous les plaisirs de la table? Quels sont vos mets préférés? Et pouvez-vous évoquer un souvenir gustatif?
Alors, moi, j'ai grandi dans une famille où la gastronomie a une place essentielle. La sortie du week-end, c'est de se rendre aux Halles de Béziers.
Ah ouais.
Voilà, c'est le rendez-vous hebdomadaire. Une famille où il y a le goût des produits locaux et non transformés, et où on aime beaucoup cuisiner. Ma maman cuisine énormément. Et une petite anecdote, quand j'étais au collège, je prenais des cours de dessin, des cours de tennis, mais je prenais aussi des cours de cuisine. Et c'est quelque chose qui fait vraiment partie
de votre vie.
De ma vie, oui. Ouais,
c'est constitutif.
C'est vraiment constitutif et ça a une importance vraiment dans la famille, la nourriture. Ça tourne souvent autour des repas et autour de ce qu'on va manger. Voilà. J'ai aussi une autre anecdote, c'est que mon papa, qui est fan de gastronomie, m'a souvent amené dans des grands restaurants. Et pour fêter mon diplôme d'archi, il nous avait invités chez Michel Bras, à La Guiole, chez Sébastien et Michel Bras. Donc j'ai comme un de mes meilleurs souvenirs, la soupe aux truffes blanches et aux truffes noires. J'ai goûté les deux de Michel Bras. Voilà, ça fait partie de mes souvenirs gustatifs les plus fous.
Alors, quel cadeau, parce que c'est lié en plus à votre diplôme.
Oui. C'était un beau cadeau.
Super. Alors, on s'est connus via Instagram.
Oui.
Parce que vous êtes une auditrice fidèle. Exactement. Et d'ailleurs, je vous en remercie. Et je vous ai remarqué parce que vous êtes quelque part guerrière et audacieuse. Je pense que vous vous extériorisez. En tout cas, vous n'avez pas envie de subir des aberrations qui existent dans le métier. Et vous avez le courage d'en parler. Et je vous admire beaucoup pour ça, pour votre caractère bien trempé et pour votre côté combatif. Et je me dis, ça fait longtemps qu'on n'a pas reçu une femme architecte dans le podcast, parce que ça s'est fait comme ça. Et parmi ces femmes architectes, je vous trouve, comme je viens de le dire, combative. Et je pense que ça colle bien à cette énergie qu'il faut investir dans ce métier dont on va parler. Voilà.
Très bien.
Alors, on va commencer par le début. Quel est votre parcours? Quelle a été votre jeunesse? Où s'est ancrée cette envie d'architecture, ce désir d'architecture? Et quelles ont été vos études?
Alors, tout d'abord, j'ai un bac littéraire, ce qui est assez rare dans les personnes qui passent ensuite par les ENSA. Un bac littéraire option maths. J'ai fait l'école d'architecture de Montpellier jusqu'à mon DPLG, et ensuite j'ai fait un DESS compétences complémentaires en informatique à l'université de Marseille-Lumini, avec une option modélisation en architecture. Voilà pour le parcours études. Je suis née en 1977, c'est l'année de l'inauguration du Centre Pompidou, donc c'est une année, peut-être un signe, je sais pas, mais c'est un de mes bâtiments préférés, donc j'aime bien l'évoquer. Je suis pas d'une famille d'architectes, mais mon papa est ingénieur ESTP, donc j'ai quand même grandi dans le milieu du bâtiment. Et puis, vers 2-3 ans, il se trouve que mes parents ont construit... mon père avait un ami maître d'œuvre qui plus tard a eu l'équivalence pour devenir architecte, qui leur a construit leur première maison. Et donc, j'allais beaucoup sur le chantier, toute petite, et j'adorais ça. Donc, mon envie d'architecture, elle a commencé très très tôt. C'est-à-dire que enfant, dès que j'ai su parler, je ne voulais pas être princesse, je voulais être architecte et construire des maisons. Donc c'est quelque chose qui est ancré depuis très jeune chez moi. Mes souvenirs d'enfance, ils sont aussi liés à l'architecture, parce que mon papa avait fait acheter un appartement à mes grands-parents à la Grande Motte, à la construction de la Grande Motte.
La fameuse Grande Motte.
Voilà, la fameuse Grande Motte. Et j'y passais toutes mes vacances. Donc, j'ai passé mes vacances dans un logement dessiné par Jean Balladur. Donc, il y a eu cette période-là. Par la suite, mon papa était directeur adjoint de la Société d'économie mixte de Béziers, qui, entre autres, a fait la mission Racine et a construit la station du Cap d'Agde par Jean Lecouteur. Et donc, il a été amené à suivre la construction du stade de la Méditerranée à Béziers, fait par Jean Balladur, dont le concours avait été gagné par Jean Balladur. Et donc, il m'a amené régulièrement sur le chantier de la construction du stade. Et puis, c'est lié d'amitié avec Jean Balladur. Et donc, Jean Balladur venait dîner à la maison quand j'étais adolescente.
Voilà. Ah alors, oui, donc c'est vif comme souvenir.
Voilà, donc c'est des souvenirs qui marquent et qui restent. Et qui perdure. Puis un dernier souvenir peut-être aussi, j'ai fait, pendant pas très longtemps, mais un an ou deux de la natation en compétition, et je me souviens avoir fait les qualifications pour les championnats départementaux dans la piscine d'Agde, qui était une piscine tournesol. Et je pense que mon souvenir le plus marquant était le fait de cet ensemble qui s'ouvrait et se fermait, plus que de la compétition en elle-même. Voilà. J'ai été toute mon enfance et mon adolescence très marquée par tout ce qui était l'espace. Enfant, j'arrivais dans un restaurant, je me ruais aux toilettes. J'allais visiter l'organisation. Et alors maintenant, aujourd'hui, quand je passe beaucoup de temps à dessiner des sanitaires, je repense à ce moment-là, mais je trouve que c'est un lieu où il y a beaucoup de détails au final qui sont dessinés. Et petite, ça, c'était quelque chose qui m'intéressait, d'aller voir comment étaient calpinés les carrelages, les faïences, quel vase qu'on avait choisi, toutes ces choses-là. Et ça reste un peu ancré dans les souvenirs. Je faisais aussi la critique d'archi très jeune. Je pouvais dire, voilà, quel espace, ce que je trouvais de bien dedans, ce que je trouvais de moins bien. C'est quelque chose qui est définitivement ancré en moi.
Mais c'est bien parce qu'on manque d'esprit critique en ce moment.
Voilà, déjà, je pense que déjà, je l'étais assez jeune.
Donc, vous avez votre bac littéraire et vous rentrez à l'école.
Oui, je rentre à l'école alors que mon père, qui était un scientifique et qui avait fait maths sup, maths spé, me dit on ne te fait pas archi avec un bac littéraire. Donc, je le lui dis pas. Je m'inscris à l'école pour passer tous les examens d'entrée. La veille, je lui dis voilà, il faut que tu m'amènes à l'école d'archi de Montpellier. Je vais aller passer le concours. Voilà, mais je regrette pas aujourd'hui, avec le recul, d'avoir fait un bac littéraire.
Et alors, il était pas content ?
Non, il m'a dit, écoute, je t'amène, tu passes et puis tu verras.
Ouais.
Voilà. Ouais, non.
Bon, et donc les études se déroulent ?
Les études se déroulent, elles sont longues, elles sont périlleuses, voilà. Bon. Par contre, à la sortie du diplôme, j'ai envie d'enchaîner avec... Peut-être pas de suite avec les agences, parce que j'ai travaillé toutes mes études en agence et que je me dis que peut-être j'ai envie d'aller voir autre chose. Et je m'inscris donc dans un master en me disant, il faut que tu apprennes. Moi, je suis d'une génération où les écoles d'architecture, l'informatique est rentrée dans les écoles d'architecture et où il y a eu un grand bouleversement. Et à l'école de Montpellier, on n'était pas très très bien formé en informatique, on était déjà un peu en retard là-dessus. Donc je demande à mes parents de me financer une formation pour apprendre AutoCAD. Et suite à ça, je me dis j'ai envie d'apprendre à modéliser, à faire de la 3D. Faut que je connaisse les outils que je ne connais pas. Donc, je m'inscris dans ce master où ils prenaient entre 5 et 10 personnes sur toute la France pour la modélisation. Et j'arrive dans cette école d'archi de Marseille où je garde un souvenir vraiment, vraiment super, parce que d'abord, l'école est dans les Calanques. Donc, c'est quand même un site qui est fabuleux. Je tombe sur un prof super et un groupe très sympa. Et voilà, et ça s'enchaîne avec le fait qu'il fallait trouver un stage pour ce master. Et là, je vais taper à la porte de Rudy Ricciotti. Voilà comment les choses...
En ouvrant l'annuaire ou parce qu'il était déjà connu.
Il venait de gagner le MUCEM. Il était déjà très connu. Et en fait, au bout d'un mois, à la fac, où je faisais de la programmation du C++, c'était très scientifique. J'étais à la fac de sciences de Lumini. Au bout d'un mois, l'archi a commencé à me manquer. Et à l'époque, il y avait une conférence faite par Stan Neumann qui faisait les films pour Arte d'architecture. Où ensuite, il y avait des projets qui étaient présentés. Ils présentaient à la fois leur travail et il y avait une intervention de Rudy Ricciotti. Et donc, c'était à Aix-en-Provence. Je prends ma voiture, je vais à Aix et je me dis, je vais écouter de l'archi, ça va me faire du bien. Et puis, je me dégonfle pas. Et à la fin de la conférence, je vais lui demander qui gère les images à l'agence parce que j'avais besoin d'un stage pour faire de la modélisation 3D. Et là, il me dit, écoute, tu m'envoies ton CV et viens travailler avec nous parce qu'on gère tout en interne. Donc, tu es la bienvenue.
Et alors, vous avez résisté au phénomène Ricciotti?
Ah ben, j'en garde des super souvenirs. Hein. C'est, ça va faire 20 ans cette année que j'ai travaillé pour Rudy. Mais voilà, ça reste une expérience. Peut-être parce que c'est aussi la première après le diplôme. Donc, elle est peut-être plus marquante que les autres. Mais,
c'est un personnage aussi.
C'est un personnage, mais c'est quelqu'un qui est extrêmement intelligent et qui a beaucoup, qui comprend vite les choses. Et qui donne beaucoup en fait. Donc, j'en garde vraiment un souvenir. Puis j'ai travaillé avec des gens. Il y avait une bonne équipe. On s'entendait bien. J'y étais les périodes d'été. Donc, on a fait beaucoup. Il m'a beaucoup amené faire du bateau. On allait beaucoup à la plage. On travaillait énormément, mais on avait à côté de ça une qualité de vie, le fait d'avoir l'agence face à la mer à Bandol, qui était assez fabuleuse.
Oui. Il y a pire comme lieu
comme
de travail.
Cadre, ouais, comme cadre. C'était,
Vous êtes restée combien de temps?
Alors, je suis restée quelques mois, le temps de valider un été, le temps de valider mon stage. J'aurais pu rester plus. Puis je me suis dit, en quelques mois, j'ai fait beaucoup de concours, beaucoup de charrettes. Et je me suis dit que peut-être j'avais envie aussi de faire des études. Et travailler plus sur des phases de développement de projets plutôt que d'enchaîner les concours. Parce que c'était une période à laquelle il venait de gagner le MUCEM et il avait énormément... il était retenu sur beaucoup, beaucoup de concours. Et on enchaînait pas mal les concours. J'avais une amie qui s'occupait des maisons, elle, qui gérait les maisons. Mais en dehors de ça, il y avait une personne qui s'occupait de tout ce qui était les chantiers. Mais tout le reste de l'agence travaillait sur des concours et au bout du troisième concours, j'ai eu envie d'aller voir autre chose, de faire autre chose.
Alors, point de suspension et plutôt point d'orgue dans le podcast, la fameuse question. Vous êtes à votre compte aujourd'hui. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école?
Alors, à la sortie de l'école, mon plus gros rêve, c'était d'être chef de projet pour un architecte, une agence un peu reconnue. Sachant que j'avais travaillé pendant des années pour des agences locales à Béziers et à Montpellier.
Pendant vos études?
Pendant mes études, j'avais envie d'aller voir ce qui se passait à Paris. C'était un peu... quand on est à Montpellier, Paris c'est loin. Ça paraît un peu aussi inaccessible parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. Les grands architectes, on les croisait dans les livres. On passait beaucoup de temps à la bibliothèque. On les fréquentait pas forcément. Il n'y avait pas beaucoup de conférences d'architectes qui existaient. Aujourd'hui, je pense que l'école a beaucoup évolué là-dessus, mais nous, c'était pas le cas. Et pour moi, c'était le rêve inaccessible. Travailler pour un archi reconnu et peut-être un jour finir chef de projet. Donc, je pense que j'y suis arrivée bien plus vite que ce que je pensais.
Voilà, donc finalement, pas si mal.
Ouais.
C'est intéressant ce que vous dites sur effectivement la culture qu'on avait la chance, quelque part, d'acquérir par les livres sur un temps long. Et du coup, je pense qu'on mystifiait beaucoup plus que maintenant. On consomme.
Ouais, et puis je me souviens, il y avait eu une conférence avec Mario Botta à l'école.
Ouais.
L'école avait été fermée pendant 2 jours. C'était la grande star qui arrivait avec le tapis rouge. Enfin, on aurait vu Michael Jackson à l'époque. C'était pas mieux, quoi. Enfin, ces gens-là, ils étaient inabordables pour nous, quoi.
Alors, maintenant, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de vos projets? Peut-être que vous voulez déroulé sur les agences qui ont suivi après et puis en venir à votre
Parce que pratique. Ça m'a quand même formé énormément. Donc suite à Rudy Ricciotti, je travaillais chez Yves Lyon.
Grosse agence.
Grosse agence. Il avait déjà tous les prix qu'on connaît, les équerres d'argent. Voilà. Moi, j'avais été embauchée pour travailler pour Next City à Polonia, à faire du logement collectif. Et j'ai pas mal travaillé également sur INALCO, l'Université des langues orientales. Donc, très formateur. Une expérience. J'arrivais à Paris, c'est là où je me suis fait tous mes amis architectes également, parce qu'on était des bonnes équipes. J'en garde un bon souvenir. Suite à ça, j'ai enchaîné donc premier poste de chef de projet chez Moati Rivière sur un bâtiment qui était fabuleux parce que c'était pour les rencontres internationales de la photographie, les RIP, la grande halle aux images en Arles. Et moi, j'avais fait beaucoup de photos à l'école d'archi, j'adorais ça, j'allais en Arles 2-3 fois par an. C'était un peu le projet rêvé pour la première fois où j'étais chef de projet. Projet avec une toiture tout en diode, un mur d'image, une façade qui avait été défaite et refaite tout en métal avec RFR. Projet pareil, très majestueux et sur lequel j'ai beaucoup appris. J'ai également un peu fait travailler sur l'historia Charles de Gaulle aux Invalides, pour moi à Thierry Rivière toujours, faire de la muséographie, ce que je n'avais jamais fait avant. Et Alain Moati m'a formée et ça a été aussi une excellente expérience. Suite à ça, rapidement, j'ai travaillé pour Jean Bocabeille et Ignacio Prégo pendant 2 ans, qui m'ont donné la chance d'accéder aux phases chantier. Ce que je n'arrivais pas à faire dans les autres agences, parce que dans les très grosses agences, il y a les gens qui font les concours, les gens qui font les études et les gens qui font le chantier.
C'est très séparé.
Voilà, c'est très séparé. Donc ça aussi, très, très formateur. Puis, je suis partie sur un très gros projet avec 4 agences qui étaient Anne Demian, Rudy Ricciotti, Francis Soler et Lynn Fingapel pour le projet de la gare d'Auteuil. Voilà. Et enfin, j'ai terminé chez Manuel Gautran, où je suis restée 4 ans et où j'ai développé des projets à vocation culturelle. Très belle expérience, ma plus longue, et puis celle sur laquelle j'étais peut-être le plus ancrée, puisque j'avais déjà un parcours derrière moi. Manuel est quelqu'un qui fait confiance aux gens avec qui elle travaille, donc c'était plutôt facile de travailler pour elle. Voilà. Et puis en fait, je suis arrivée là, j'avais à l'époque chez Jean Bocabeille et Ignacio Prégo, j'avais fait un premier concours d'idées pour Agora à Bordeaux, la Biennale d'architecture, et où j'avais remporté un prix. Et j'étais assez fière parce que c'était Nicolas Michelin qui était président du jury. Donc voilà. Puis à ce moment-là, j'ai acheté mon premier appartement que j'ai réhabilité également, qui a été pas mal publié. Donc j'avais pas l'ambition de m'installer, mais j'avais quand même commencé des petites choses par-ci par-là, des petits concours, des premières réalisations. J'en ai profité pour faire les AJAP que j'ai loupées. Voilà. Et puis en arrivant chez Manuel Gautran, j'étais sur un projet qui s'est arrêté au bout de 4 mois pour des raisons financières. Et là, ils m'ont dit, écoute, on ne peut pas te garder, on le regrette, mais là, le projet s'arrête. Donc, je me suis dit, t'as un peu tout fait en agence, qu'est-ce que tu veux ? J'avais pas de commande, j'ai dit, je vais essayer de m'installer et puis on verra bien. Et donc, je me suis installée et entre-temps, moi, le temps de déposer les statuts, Manuel a gagné un nouveau concours et m'a rappelé pour développer un projet sur un nouveau concours. J'y suis restée 3 ans de plus. Donc, en fait, mes débuts d'agence, j'étais en freelance pour Manuel Gautran.
D'accord. Ok. Du coup, ça vous a bien lancé ?
Alors, ça m'a pas du tout lancé, parce que, en fait, le jour où j'ai arrêté ma collaboration avec Emmanuel, j'avais rien. Donc, il a fallu envoyer des dossiers de candidature et recommencer à zéro avec des petites références.
C'est ça le problème.
Pas de références et pas de chiffre d'affaires. Enfin, toujours les mêmes problèmes.
Ouais.
Et j'ai quand même réussi à remporter une première consultation pour Immobilière 3F. Dans le sud de Paris, dans l'Essonne, pour faire des garages. Donc ça a été le premier projet. Et là, j'ai décidé de... Les délais étaient très courts. Et j'ai décidé d'utiliser le préfabriqué et de faire livrer des garages à Allemagne. Donc ça a été un premier chantier assez drôle, parce que à gérer des combos exceptionnels et puis des grues pour mettre en domino ces petits garages. Voilà. Et suite à ça... se sont enchaînés. Alors, j'ai été retenue, pas par hasard, parce qu'en fait, quand j'étais étudiante, je travaillais en job d'été. Les trois mois où on n'était pas à l'école, en général, je faisais un mois où je travaillais pour la commune de Valras-Plage, soit comme gardienne de parking, soit comme contrôleuse de la taxe de séjour. Et donc, la commune m'a donné la chance de me donner une première commande, voilà, qui était sous les seuils, en consultation avec une procédure adaptée, qui a été le centre technique municipal. Et où la volonté était de faire des bâtiments de stockage parce que c'est une station balnéaire, que l'été, elle fait beaucoup de concerts et d'animations et qu'il fallait stocker tout le matériel d'animation dans des locaux. Donc, premier vrai projet de construction et la demande était de travailler en métal. Voilà.
Donc, ouais. Donc avec ce que ne savent pas forcément les auditeurs, c'est que quand on dessine une architecture métallique, le degré de détail est très poussé. Donc ça requiert des qualités de vision dans l'espace, notamment, et de connaissances aussi.
Alors moi, j'avais très très peur de l'appel d'offres, parce qu'en fait, je suis dans une région où tout le monde construit en parpaing, et où il n'y a que des maçons, et on ne construit pas en structure métallique. Et en fait, j'ai eu une chance folle sur ce projet, c'est-à-dire qu'il y avait, je ne savais pas que en Lozère et dans l'Aveyron, il y avait des entreprises compétentes pour la structure métallique, qu'elles construisaient pas mal. Et donc, il y a une entreprise qui était une grosse entreprise dont le PDG avait une maison de vacances familiale à Valras-Plage. Il s'est dit, c'est un petit projet, mais ça me ferait plaisir de venir régulièrement le suivre. Et donc, je vais répondre. Et donc, j'ai été face à une entreprise super compétente avec un bureau d'études intégré qui a su gérer, parce que j'avais quand même des détails qui étaient très complexes, notamment en toiture avec des plis de bardage un peu dans tous les sens. Et mon bureau d'études me disait que c'était impossible, que je n'arriverais pas à le construire. Le reste de mon équipe de maîtriseurs ne me soutenait absolument pas dans mon dessin et dans mon projet, mais l'entreprise m'a soutenue. Ouais. Et ça a été super.
Alors ensuite, l'enchaînement des projets.
Ensuite, il y a eu 10 logements sociaux, toujours sur la commune de Valras-Plage. Un petit projet avec pour l'OPH de Béziers, sans budget. Projet complexe qui a mis énormément de temps à sortir puisqu'on était encore d'état séparés et ça a été long. Sur lequel j'avais décidé de travailler la terre cuite parce que j'ai un caractère un peu borné et que j'en avais assez d'entendre que la terre cuite c'était Toulouse, que les briques c'était Toulouse et qu'à Montpellier on n'utilisait pas la terre cuite. Donc en fait je leur disais oui, mais vous voyez bien que vous demandez tous des couvertures en tuiles, c'est le même matériau qu'il soit en façade ou en toiture, on est sur le même registre. Et donc j'ai réussi à intégrer des lignes de terre cuite sur le bâtiment. Bon, le directeur adjoint m'a enlevé tout le dernier niveau de lignes de terre cuite au dernier moment, mais j'ai gardé cette petite liaison et j'ai surtout travaillé le projet parce que Valras-Plage, c'est une commune où les familles ont des maisons. Les familles de Béziers, elles venaient l'été, c'est historique, prendre leur bain de mer. Il y a des maisons familiales et c'est assez bas comme commune. Et donc, j'ai travaillé deux petites maisons que j'ai reliées par un escalier assez léger en métal, pour que les gens qui habitent là puissent vraiment avoir l'impression qu'ils sont en vacances toute l'année chez eux. Voilà.
Et en effet, vous avez apporté une matérialité assez belle et assez novatrice d'ailleurs, parce que la volumétrie reste relativement simple, mais vous avez réussi à faire vibrer un peu tout ça par l'emploi de ce matériau.
Alors, j'ai rien inventé parce qu'il y a un projet allemand qui avait utilisé ce registre-là.
Vous êtes inspirée.
Voilà, je m'en suis inspirée. Mais surtout, ce qu'il y a de rigolo, c'est que la personne qui s'est occupée des enduits n'avait pas compris que je voulais le joint creux. Et ce joint creux, on s'était dit, quand il va pleuvoir, ça va être une horreur, on ne saura pas le gérer. Et au final, il est venu au nu. Et ça donne tout à fait autre chose, la matérialité est complètement différente de ce que je voulais, mais au final, c'est un bâtiment qui vieillit bien et c'est un projet qui vieillit bien.
Bah, ça c'est bien.
C'est important.
C'est important, oui. Et puis vous avez apporté une valeur ajoutée sur quelque chose qui au départ n'était pas voué forcément à ça.
Oui.
Alors ensuite.
Ensuite, il y a eu un restaurant scolaire. Donc là, c'était l'extension d'une extension. Toujours les mêmes problèmes. La commune, petit village en périphérie de Béziers, qui a une explosion démographique et qui a besoin, en fait, d'agrandir son restaurant scolaire. Elle avait déjà fait une première extension il y a 10 ans, et il a fallu réutiliser les terrasses de part et d'autre de la première extension pour rajouter de la surface utile et pour qu'ils puissent, en 2 services, accueillir tous les nouveaux enfants qui arrivaient à l'école. Donc, sujet classique, chantier compliqué, parce qu'on m'a donné 2 mois pour construire 2 petits bouts de bâtiment et puis réhabiliter entièrement le resto scolaire. Bon, ça, c'est toujours le problème des plannings quand on fait du scolaire, c'est-à-dire qu'on a les vacances pour faire les travaux, la majorité du temps. Voilà, après une poste, un bureau de poste dans un centre de village également, sur lequel j'ai voulu tester au niveau matérialité les briques de béton, dans des tons similaires aux enduits du village. Donc c'était un peu une première sur l'utilisation de ce matériau-là. Voilà, petit projet pour la commune et pour le mettre en location pour la poste. Voilà, là, les 2 chantiers se sont faits en parallèle. Bon, les communes étaient à quelques kilomètres, donc c'était gérable. Mais il a fallu livrer les 2 en même temps. Ça a été un peu sport cet été-là. Et puis, ensuite, il y a eu mon dernier projet public qui a mis un peu de temps à sortir puisqu'il y a eu le confinement et le Covid, qui est un centre de loisirs. Et là, l'histoire est assez jolie parce que, en fait, il y avait un mille club. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est le Mille Club. Mmh. Le Mille Club, c'était je pense que c'était dans les années, fin des années 70, début des années 80 de mémoire. On avait construit, en fait, des bâtiments préfabriqués tous similaires dans des tas de communes qui avaient été organisés par le ministère pour que la jeunesse ne n'erre pas et soit occupée.
Ça me revient.
Voilà. Mmh. Et donc, il en reste encore de ces 1000 clubs.
J'avais croisé ça en histoire de l'architecture, en effet.
Voilà. Mais. Et donc, ce 1000 clubs, il se trouve que il correspondait plus du tout à ce que la commune avait besoin pour ses activités, notamment pour le centre de loisirs. Donc, elle voulait le démolir et puis construire. Alors, Valras-Plage, c'est une commune où on est en zone rouge, donc inconstructible. Mais on peut construire sur la même emprise que le bâtiment, si on démolit ou si on enlève un bâtiment, exactement la même emprise au sol. Et il faut qu'on ait un plancher qui soit à une certaine hauteur à cause des problèmes de submersion marine. Et donc, ce projet-là, le chantier devait commencer, on était au début du confinement. Et il se trouve que j'avais l'entreprise qui avait été retenue, c'était l'entreprise avec laquelle j'avais déjà fait tout le gros œuvre de mon centre technique municipal, ce sur quoi était venue se poser la structure métallique. Et c'est quelqu'un qui était assez fabuleux, le maçon avec qui je travaillais, quelqu'un que j'adorais parce qu'il coulait des bétons qui étaient sublimes. Et puis il était super consciencieux. Et donc, il a profité en off du confinement pour aller déposer pièce par pièce ce mille club, au lieu de d'arriver puis d'un coup de pelle mécanique, il l'a démonté pièce par pièce, il l'a récupéré, il l'a stocké, et il avait un terrain et il se l'est reconstruit sur son terrain. Et je trouve ça, on a sauvé le mille club.
Et alors ce centre de loisirs à Valras, vous avez encore apporté une valeur ajoutée dans le traitement du plafond?
Alors, le plafond, c'est une longue histoire que j'ai avec ces plafonds. C'est-à-dire que toujours ce maçon, la première fois que j'ai fait le centre technique municipal, il y avait des planchers de stockage à l'étage sur une partie d'un des 2 bâtiments. Et sans qu'on en discute, il est arrivé avec des poutrelles ourdies, et des poutrelles en béton et des ourdis bois. Et je trouvais ça assez joli. Bon, on avait quand même tous les problèmes de métal à gérer, donc on ne s'est pas appesanti sur la question, mais je le gardais en tête. Et quand il a répondu et qu'il a gagné l'appel d'offres pour le centre de loisirs, il m'a reproposé la même chose dans le même. Il a fait une variante dans exactement le même budget. Et je trouvais ça tellement plus qualitatif que d'avoir des ourdis en polystyrène ou des ourdis béton. Et en fait, la petite histoire, c'est que quand j'ai posté les photos du chantier, tous les architectes qui me suivent m'ont envoyé des messages en me disant « il faut garder ça apparent, mais c'est tellement beau, c'est magnifique ». D'autant plus que le jour où j'avais pris les photos, il avait plu et donc ça se reflétait dans une flaque d'eau. C'était vraiment assez poétique. Et je leur ai dit « le problème, c'est que ça n'a pas été anticipé et à ce jour, j'ai des utilisateurs qui ne comprendraient pas parce que j'ai beaucoup de techniques à faire passer dans les faux plafonds. Et il va falloir que je cache et je suis pas sûre que ça soit possible. » Et à ce moment-là, j'étais au début du projet sur la maison individuelle et j'ai gardé un peu en tête et on était un peu sur les budgets. Justement, on était en train de faire chiffrer. Et
la maison individuelle de Béziers.
Voilà, la maison individuelle
de Béziers. Qui vient de paraître dans À vivre.
Voilà, exactement. Allez. Et donc, je me suis dit, j'ai amené les clients sur le chantier pour leur montrer ce que ça donnait. Et je me suis dit, peut-être la solution, c'est que dans la maison, c'est la troisième fois que j'utilise ce système constructif, on va pouvoir enfin réussir à le montrer. Et donc, j'ai un peu retravaillé tout ce qui était les réseaux et notamment tout ce qui était PAC, pour toute la ventilation, les réseaux d'eau chaude, d'eau froide, d'air, pour avoir un minimum de faux plafonds qui soient coffrés en BA13 et puis que tout le reste soit apparent puisqu'on avait des recherches de pistes d'économie et donc on a décidé de laisser enfin, pour une fois, apparent ces plafonds qui étaient en fait, qui sont le plancher, quoi, qui sont la surface du plancher puisque c'est des poutrelles et des bourdibois.
Effectivement, ça crée une esthétique qui est très belle. Et alors la particularité aussi de cette maison, c'est un solarium, comment...
Alors c'est une maison qui est faite vraiment pour le sud de la France, c'est-à-dire que tout se passe autour des espaces extérieurs. Elle se développe autour des espaces extérieurs, donc au rez-de-chaussée, il y a une terrasse qui fait tout le long de la façade sur jardin, qui s'ouvre sur le jardin. Au RE+1, il y a deux terrasses, une terrasse centrale au-dessus du séjour, plus une petite terrasse au-dessus de l'entrée, qui est desservie par une des chambres. Et en fait, la terrasse au RE+1, la grande terrasse au-dessus du séjour, elle permet l'accès à un escalier hélicoïdal qui amène à la toiture terrasse, qui a la vue sur toute la ville. Donc, on a créé un rooftop avec la vue sur toute la ville. Mmh.
Donc c'est vraiment, là vous venez de la livrer, enfin c'est assez récent.
Oui, elle a été livrée en 2022.
Oui. Vous estimez que c'est votre projet emblématique ?
Alors si j'avais deux projets emblématiques, la maison et puis le centre technique. Je ne sais pas si c'est parce que c'est mon premier, mais je tiens énormément à ce projet-là. Peut-être aussi parce que j'accorde une importance un peu à travailler sur des bâtiments qui sont peut-être pas assez travaillé par les architectes, en fait. On ne donne pas assez l'accès sur les bâtiments industriels aux architectes, je trouve.
Oui.
Ce sont des sujets qui sont super et on se passe d'architecte, c'est un peu dommage. Et la ville moche, elle vient un peu de là, je trouve. C'est-à-dire que tous ces quartiers qui arrivent dans les entrées de ville, toutes ces zones commerciales et artisanales avec des bâtiments non traités, c'est quand même un peu dommage. Et travailler un centre technique municipal, c'est un très beau sujet, je trouve.
Mmh. Effectivement, le commun des mortels pense que la ville moche, c'est de la faute des architectes, alors que c'est justement le défaut d'architectes qui est pointé sur cette problématique-là. Et beaucoup de jeunes agences, aujourd'hui, se réapproprient un peu ces sujets avec des matières que l'on revisite, la pierre, le chanvre, la paille, etc. Et du coup, ça réanoblit quelque part nos paysages.
Mais c'est essentiel, je trouve.
Ouais. Et donc, c'est bien d'avoir eu cette audace, peut-être, de vous confronter à ça.
Moi, je pense que c'est plus une opportunité, mais c'est une chance.
Ouais.
Vraiment une chance d'avoir l'accès sur des projets avec des programmes un peu communs et de pouvoir travailler un petit peu ces programmes-là.
Oui. Donc, si jamais un privé dans n'importe quel type de programme a quelque chose à vous confier de ce type...
C'est avec plaisir.
Avec plaisir. Bon. Alors, c'est vrai que l'architecte est amené à projeter sur un temps long. Donc, il a besoin de pas mal d'énergie le matin, quand il affronte sa journée. Et je pense qu'il est dans une position intéressante pour peut-être éclairer le commun des mortels sur la manière dont on peut appréhender ce monde compliqué, cette actualité compliquée. Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur le sujet ?
Je pense que on est tous conscients que on sort d'une crise sanitaire, on est en plein dans une crise énergétique. La filière de l'immobilier et de la construction
est en train de trinquer.
Voilà, est en pleine crise également. Il y a aussi la crise financière qui touche beaucoup de ménages qui n'ont plus accès à la propriété et donc qui n'ont plus de projets d'investissement et qui ne font plus appel à nous aussi. Donc on est tous en train de vivre des moments un petit peu difficiles suite à ça. Mais je pense qu'il faut aussi toujours dans les crises essayer de regarder le côté positif des choses. C'est que peut-être aujourd'hui la conscience environnementale et la décroissance qui peut aussi bloquer le fait d'entreprendre des projets, c'est peut-être pas quelque chose de négatif, c'est aussi peut-être quelque chose qui doit être repensé pour aller vers plus de qualité et puis moins de profits financiers. J'ai peut-être un discours un peu à la Pierre Rabhi, mais je pense que à des moments, faut aussi apprendre à vivre avec moins et à vivre avec mieux. Et ça, c'est un peu essentiel. Et on a besoin de plus de qualité architecturale, on a besoin de plus de qualité urbaine. La France a des architectes qui sont fabuleux.
Oui.
Dès que vous voyagez, vous vous rendez compte que on a une source inépuisable parce qu'il y a les nouvelles générations qui arrivent. Et moi, je suis toujours stupéfaite quand je me penche sur les nouvelles agences et sur le travail qu'ils font, qui est fou. Donc,
c'est très l'architecture en France est très prolifique.
Ouais, et puis vraiment la qualité, elle est vraiment super. Bon, c'est assez général à l'Europe, hein, parce qu'on a des très bons architectes en Espagne, on a des très bons architectes au Portugal, dans les pays nordiques, au Danemark. Bon. Mais la France, on est souvent à taper sur notre pays, mais on se rend pas compte qu'au niveau architecture, il y a tout ce qu'il faut. Donc, j'ai envie de dire un peu aux gens qui sont aux commandes de tout ça, faites confiance aux architectes français. Donnez-leur du travail. Ils sauront faire. Ils sont à la fois inventifs et ils sont surtout compétents techniquement.
Oui.
Voilà, c'est fini. On n'est plus à l'époque des Beaux-Arts où l'architecte était un artiste. On a des architectes, notamment aujourd'hui avec les nouvelles filières, qui font des formations d'ingénieurs en parallèle. On a des gens qui sont compétents techniquement, qui savent faire du détail, qui savent travailler avec les entreprises, qui savent gérer.
Mais qui ont quand même et toujours un imaginaire bâtisseur. Ça ne veut pas dire que ça va être quelque chose d'égotique, parce que justement le délire de l'artiste, peut-être qu'on s'en éloigne, on est plus près de certaines urgences qui nous concernent tous. Mais ça ne veut pas pour autant dire que l'architecte a abandonné son imaginaire.
Non, il reste créatif.
Oui.
Tout en étant moins fou dans les dépenses et peut-être plus pragmatique dans ses choix.
C'est un petit peu votre façade des logements qui le prouve d'ailleurs dans quelque chose de relativement simple. Un architecte peut améliorer l'image, peut à l'intérieur de la ville faire un bâtiment qui va agir comme un lieu d'identification, mais pas au sens négatif du terme.
Ouais, et puis j'invite aussi les maîtrises d'ouvrage à aller regarder les budgets de construction. Ouais. Parce que c'est vrai que depuis quelques années, depuis 2-3 ans, il y a un boom au niveau des tarifs. On a des gros problèmes sur les budgets. Mais regardez à combien on arrive à construire. Les architectes français, l'architecte commun, il a des petits moyens pour construire. Et sur les projets, si vous regardez dans les revues les projets qui sont construits, il y a souvent des budgets qui sont minimums. Les architectes arrivent à être créatifs avec des tout petits budgets et à faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Donc voilà, intéressez-vous vraiment au projet et regardez ce qu'ils sont capables de faire.
Alors comment imaginez-vous le monde de demain en dépit de ces moments difficiles de la profession ?
J'espère que tous les jeunes architectes qui vont s'engager dans cette voie vont continuer à garder cette faculté d'adaptation qui nous est essentielle. Le monde d'aujourd'hui peut aller très vite, il peut surprendre, on l'a vu avec l'épisode Covid, mais il faut savoir toujours s'adapter. Il faut être ouvert d'esprit aussi, continuer, ne pas se fermer des portes, continuer à être toujours ouvert sur ce qui arrive et sur ce qu'on peut nous proposer. Être aussi respectueux envers toute la chaîne de production d'un projet, je trouve que c'est important. Rudy parle beaucoup des ouvriers dans son discours, mais je pense que on doit beaucoup aux entreprises sur les chantiers. C'est elles qui nous sauvent la trois quarts du temps. C'est-à-dire qu'une entreprise qui travaille bien, on est tellement satisfait quand on voit le résultat. Et au-delà de ça, on a un savoir-faire qui se perd tellement aujourd'hui. Et les entreprises qui ont du savoir-faire, bah il faut les conserver. Voilà. Le maçon dont je vous parlais. Il a fermé son entreprise, il est parti à la retraite et il a eu personne pour la reprendre. Il y a un savoir-faire qui s'est perdu. Pour moi, c'est quelque chose d'atroce. Je trouve ça, c'est horrible que dans le milieu du bâtiment, des savoir-faire se perdent. Savoir couler un bon béton, c'est important. Même si aujourd'hui, on vous dira que c'est peut-être plus important de savoir construire en bois, ben, on n'a pas non plus envie de perdre les bons maçons.
Et puis... La maçonnerie, c'est aussi important dans le Midi, c'est de l'inertie thermique, c'est une manière de construire qui participe de l'écologie du Sud.
Oui, puis voilà, la maçonnerie, c'est pas que le béton, c'est aussi d'autres matériaux. Un maçon, il va être capable de construire en pierre, il va être capable de construire en briques, ça va être toujours la même entreprise qui va intervenir sur ces choses-là. Et donc, il faut qu'elle soit capable de bien maîtriser tous les matériaux qu'elle utilise. De savoir faire des bons détails. Donc c'est vraiment nécessaire qu'il y ait vraiment un respect de toute la chaîne qui arrive à la fin du projet jusqu'à la livraison.
Quel conseil donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui ? Alors je sais que vous avez enseigné en architecture intérieure,
ouais.
Mais au sens large, architecture, architecture intérieure, paysage, enfin tous ceux qui participent à cette chaîne. Quel conseil donneriez-vous aux étudiants ?
Je leur dirais d'abord d'être motivés. C'est-à-dire que en enseignant en école d'archi d'intérieur, j'ai découvert peut-être ce qu'on voit moins en école d'archi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont là un peu par hasard. Vous pouvez pas arriver en architecture par hasard, il faut être motivé. Ce sont des études qui sont difficiles, il faut être investi. On peut pas être là par hasard. Donc soyez investis, soyez motivés, et puis soyez résilients aussi, parce que c'est pas un domaine qui est facile. Donc mettez toutes les chances de votre côté, et puis pour être plus positif, à mon époque, quand on rentrait en école d'archi, le Graal c'était de faire de la maîtrise d'œuvre et d'aspirer peut-être à être Jean Nouvel un jour, qui sait. Mais aujourd'hui, il faut se dire que la maîtrise d'œuvre, elle souffre. Et donc, je le vois dans les nouvelles générations, il y en a plein qui arrivent à se réinventer. Et je trouve ça super. Il y a plein de métiers sur lesquels vous pouvez aller. Mmh. Il y a plein de... Alors, on pense souvent à la maîtrise ouvrage, mais quand on fait de la maîtrise d'œuvre, on est ravis quand on a des archis face à nous en maîtrise ouvrage. Parce qu'on a un discours commun et que souvent, on arrive à bien échanger, à bien se comprendre. Mais il n'y a pas que la maîtrise d'ouvrage. Il y a plein de métiers dans lesquels l'architecte a sa place. Et puis, en dehors des métiers, soyez élus aussi. Investissez-vous dans la cité. C'est quelque chose d'important. D'avoir des architectes élus dans les communes, c'est super.
Le sens de l'engagement.
Voilà, continuez à vous engager dans plein de domaines différents. Parce que la vérité, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, de ma génération... Tous ceux, moi, dans mes amis qui ont monté leur société, combien ont quitté le navire ? Combien ont arrêté l'architecture ? Combien font autre chose ? Combien sont passés en maîtrise ouvrage ? Alors là, ils n'ont pas arrêté, mais ils sont allés vers d'autres voies. La maîtrise d'œuvre, c'est pas le Graal, en fait. Et puis, on peut être inventif en faisant plein d'autres choses. On le voit aujourd'hui. Et je suis vraiment admirative des nouvelles générations et notamment du discours de toutes ces personnes qui vont s'installer dans des territoires ruraux. Voilà, ça c'est quelque chose que je trouve ça super. Parce que moi, à mon époque, on aurait plus de mal à le faire.
Bien
faut
sûr.
Le dire. Ouais. Faut le dire parce qu'on avait une soif de culture que d'être, ne serait-ce qu'à Paris, on a un accès infini à la culture.
Oui, c'est un mouvement inverse aujourd'hui.
Ouais.
Dans les campagnes, à notre époque, on avait le sentiment de s'enterrer.
Après, on n'avait pas Internet, on n'avait pas, voilà, on était beaucoup moins reliés au monde.
Exactement.
Mais je trouve ça super, tous ces jeunes qui vont dans des territoires ruraux et qui décident de faire leur vie et de travailler sur des programmes communs. Et aller puis, faire du village, aller refaire la mairie.
Ils vont réparer ce qui reste encore de, parce que on travaille en ce moment beaucoup sur ce qui reste. Et c'est important pour faire des économies de matière et d'énergie. Ils ont une aptitude considérable à le faire bien.
Oui, et puis la ruralité en France, elle est belle. Les centres de village sont magnifiques. C'est aussi l'occasion d'intervenir sur de l'existant, sur des beaux bâtiments. Et c'est bien plus intéressant que d'aller construire un bâtiment tout neuf, avec un petit budget, sans gros intérêt, à une sortie de ville.
Oui,
donc je les félicite d'ailleurs, s'il y en a qui écoutent, s'il y a des gens, des jeunes générations qui sont allés s'installer dans les villages, c'est vraiment une bonne idée.
Bon, un mot de la fin?
J'espère que l'année 2024 sera une bonne année pour toute la profession, et que malgré... tous les tourments qu'on peut voir avec les faits divers à la télé, chaque fois qu'on allume la télé ou qu'on ouvre un journal, y aura aussi des bons côtés. Voilà.
En tout cas, moi, je vous encourage à garder votre audace.
Mais je vous remercie.
Parce que, en tout cas, dans la communication, on a tendance parfois à s'endormir ou à fonctionner sur des acquis. Et je trouve que vous martelez dans le bon sens. Donc, bravo.
Merci. Ouais, après, c'est une question de caractère, je pense.
Oui, mais ça prouve en tout cas que vous pouvez défendre un projet et le mener jusqu'au bout. Donc, c'est ça le métier, en fait.
Oui, mais l'essentiel, c'est d'arriver jusqu'à la livraison et surtout d'avoir, j'en ai pas beaucoup parlé dans l'épisode, mais moi, mon graal, c'est d'avoir des usagers qui soient satisfaits. L'usage, il est au centre de mes projets et pour moi, c'est l'essentiel. On construit pour les gens. Donc, d'avoir des gens qui sont contents du bâtiment et d'avoir un bâtiment durable qui sera capable de s'adapter dans les années à venir si on change de besoin, c'est l'essentiel. Voilà.
Merci beaucoup, Laure, pour votre témoignage. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.
Au revoir.
Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Merci à Julien Rebourg qui nous accompagne sur la partie son. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse @comdarchipodcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt. Et d'ici là, prenez soin de vous.